Ils font ce qui est hors norme, ce qui n'est pas normal, ce qu'ils n'ont pas besoin de faire. Mais ils croient à leur cause et ils la portent. Et à ce moment-là, ces gens-là commencent à nous inspirer. Les gens qui défendent une cause nous inspirent parce qu'ils se dépensent. Et je trouve ça génial. Honnêtement, je pense que comme chrétien, on devrait être engagé dans des causes. Pensez à l'humanité, l'ensemble du sort de l'humanité, enlevez tous les gens qui portent des causes, qui ont apporté des changements sociaux majeurs. Enlevez ça et on manque énormément dans la société. C'est génial qu'il y ait des gens qui prennent des choses à cœur et qui fassent bouger des choses. C'est pas vrai que c'est simplement en se reposant sur le gouvernement que tout va bouger. Alors, je pense que c'est absolument génial, toutes ces causes-là, et on devrait être sensible à ça. Peut-être que Dieu vous a mis à cœur, il y a quelques années, de vous engager dans une cause. Je vous encourage à le faire. C'est précieux d'aller là où des gens ont des choses à cœur, de s'investir avec eux et de faire du bien, d'intervenir pour faire bouger des choses. L'humanité a besoin de ça. Maintenant, pendant que j'étais en train de penser à ça, puis que je lisais le passage dans Actes 21, il y a quelque chose quand même que j'aimerais ajouter qui me frappait là-dedans. Alors même qu'on est en train de s'impliquer dans toutes sortes de causes, à faire du bénévolat, dans des choses que Dieu nous met à cœur de voir bouger dans la société, j'ajouterais ceci. Comme chrétien, Dieu nous a donné une cause absolument extraordinaire. Absolument phénoménal. Et alors qu'on est en train de s'investir dans toutes sortes de situations qui sont belles, inspirantes, et on veut faire une différence, comme chrétiens, on devrait garder à l'esprit que nous avons une cause qui est exceptionnelle, qui est la cause de l'Évangile. Et pendant que vous êtes en train de vous impliquer par-ci, par-là, continuez à le faire. Mais à un certain moment donné, quand vous êtes en train de servir, quand vous êtes en train de vous donner, levez la tête un instant, prenez le temps de regarder les gens qui sont en train de servir avec vous et prenez le temps de réaliser que parmi tous les gens qui sont là, investis dans cette cause-là, il y a de très fortes chances, spécialement au Québec, il y a de très fortes chances pour que vous soyez le seul chrétien à cet endroit-là qui peut porter la cause de l'Évangile dans ce milieu-là. Et vous devenez à ce moment-là un missionnaire qui porte une autre cause qui va être portée seulement par les chrétiens. Et c'est vrai dans votre famille, auprès de vos enfants, auprès de votre conjoint, c'est vrai dans votre famille élargie, c'est vrai au travail, c'est vrai avec les amis, c'est vrai dans le voisinage, c'est vrai dans la ville de Longueuil. Partout dans ce qu'on est en train de faire de bien, levez la tête un instant et prenez le temps de réaliser qu'il y a des très fortes chances pour que vous soyez le seul chrétien qui est là, qui va pouvoir porter la cause de l'Évangile. Et cette cause-là est extraordinaire. La cause de l'Évangile, Dieu veut se réconcilier avec les hommes. Les hommes peuvent se réconcilier avec Dieu grâce à ce que Jésus-Christ a fait sur cette croix. Et probablement que vous êtes la seule personne-là qui peut porter cette cause-là. Alors, gardons ça à l'esprit. Vous savez, il y a toutes sortes de causes. Il va y avoir des gens qui vont être touchés puis émus pour porter toutes sortes de causes. Mais honnêtement, je crois que la cause de l'Évangile, ça va venir aux chrétiens de la porter, celle-là. Si on peut émouvoir des gens avec toutes sortes de situations, toutes sortes de besoins, c'est bon, on va pouvoir les embarquer. Mais pour ce qui est de l'Évangile, ce sont les chrétiens qui vont devoir porter cette cause-là. J'ai demandé à Oscar cette semaine, qui est un des serviteurs en formation, un des pasteurs en formation ici, j'ai dit, Oscar, trouve-moi une cause simplement pour montrer qu'on peut émouvoir les gens avec toutes sortes de causes. Fait que trouve-moi une cause, c'est particulière, parce qu'il y en a que ça, j'avais des causes nobles ici, c'est comme évident, mais j'ai dit, trouve-moi quelque chose de particulier où on va voir qu'à peu près avec n'importe quoi, on pourrait susciter l'intérêt des gens puis les émouvoir, puis il y a juste Oscar pour nous dénicher des choses comme ça, il y a une touche spéciale, puis Oscar m'a trouvé une cause vraiment unique qui va peut-être rejoindre. Mais là, je ne voudrais pas dénigrer personne ici, mais j'ai moi-même un petit animal à la maison et peut-être ça va plus rejoindre des dames d'un certain âge ou les petites filles, mais Oscar a trouvé la cause du chihuahua albinos tibétain et il nous a trouvé une photo de cette cause-là. Et voyez-vous, je pense qu'il y a des madames qui voudraient soutenir cette cause-là. Alors, s'il y a des gens qui sont touchés par la cause du chihuahua albinos tibétain, vous pourriez aller voir Oscar après. Parce qu'ils sont beaux, les petits chiens. Je sais, j'ai un petit caniche de 9 livres. Et lorsqu'on se promène avec, à tout coup, ça marche avec les madames d'un certain âge. Ils veulent venir flatter mon petit chien. Alors hier, c'était une maman avec sa petite fille qui voulait flatter mon petit chien. Puis c'est une noble cause quand même. Je veux dire, les chihuahuas albinos tibétains sont en voie d'extinction. Alors, il faut aller les défendre. Voyez-vous, on pourrait toucher les gens avec plein de causes. Mais honnêtement, si la plus grande cause que Dieu vous a donnée, c'est l'Évangile, regardez à quoi ça ressemble. Puis vous allez voir que ça tranche pas mal avec le petit chien albinos. Ça, c'est notre cause. Ça, c'est notre cause. Notre cause, c'est l'histoire du Fils de Dieu qui est venu sur la terre, qui est mort, battu à mort, crucifié, pendu au bois. Et cette cause-là est pas mal moins touchante, l'histoire d'un ancêtre qui a vécu il y a 2000 ans et qui est supposé changer l'histoire de l'humanité. Et si c'est ça votre cause que vous avez à défendre parce que vous êtes chrétien, je pense que c'est vous qui allez devoir la porter dans votre famille, autour de vous. Parce que celle-là n'attirera pas autant d'attention que mon petit chihuahua. Elle n'attirera pas autant de sympathie. Et ça, c'est la réalité. Ce matin, on va aller dans Actes, en Actes 21, parce que moi, personnellement, à travers ma vie chrétienne, il y a des gens qui m'ont inspiré à porter la cause de l'Évangile. Il y a des gens qui m'ont touché par leur dévouement, par leur consécration. Il y a des gens que j'ai connus, des Monsieur Keefe, des Monsieur Mercier, qui portaient la cause de l'Évangile constamment, constamment. Mais l'apôtre Paul est un superbe exemple de quelqu'un qui s'est dévoué et qui a inspiré non seulement des chrétiens à se tenir debout pour la cause de l'Évangile, mais qui a inspiré aussi des gens à venir à la connaissance de Jésus-Christ. Par son dépassement, par son message, mais par sa consécration, par son amour pour eux. Et ce matin, on va retrouver l'apôtre Paul alors qu'il revient à Jérusalem. Il revient de 3 voyages missionnaires, d'accord? Il a voyagé, il est allé annoncer l'Évangile, il a porté la cause de l'Évangile extrêmement loin de chez lui. Il a vu des centaines, voire des milliers de personnes venir à la connaissance de Jésus-Christ parce qu'il a porté cette cause-là. Et il revient à la maison, il revient chez lui à Jérusalem pour faire rapport de tout ça puis partager cela avec l'Église. Alors, on va tourner ensemble dans Actes 21, verset 17. Et ce matin, on va lire à partir d'une version qui s'appelle la Parole de vie. Alors peut-être que vous allez préférer écouter Christian et suivre sur les écrans, puisque vous n'avez probablement pas cette version-là avec vous. On va écouter la Parole de Dieu.
Au faux Dieu, ne mangez pas de viande qui contienne encore du sang. Respectez les lois du mariage. Alors, Paul amène ces 4 hommes. Le jour suivant, il commence avec eux la cérémonie de purification. Puis il va dans le temple. Là, il fait savoir le jour où on offrira le sacrifice pour chacun d'eux, quand la purification sera terminée. Les 7 jours de la purification sont presque finis. Des Juifs de la province d'Asie voient Paul dans le temple. Il excite toute la foule, et ils arrêtent Paul. Il crie « Jean d'Israël, au secours, le voilà l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement contre notre peuple, contre notre loi et contre ce temple. Il a même fait entrer des non-juifs ici. Il a rendu impur ce lieu saint. » En effet, à Jérusalem, les Juifs ont vu Trophime d'Éphèse qui accompagnait Paul, et ils pensent que Paul l'a fait entrer dans le temple. Il y a de l'agitation dans toute la ville, et le peuple arrive en foule. Ils arrêtent Paul et l'entraînent en dehors du temple. Tout de suite après, on ferme ses portes. Les gens cherchent à tuer Paul. Mais le commandant des soldats romains apprend que l'agitation s'est répandue dans toute la ville de Jérusalem. Il prend immédiatement avec lui des soldats et des officiers. Il court vers la foule. Quand les gens voient le commandant et les soldats, ils cessent de frapper Paul. Alors le commandant s'approche. Il fait arrêter Paul et il donne l'ordre de l'attacher avec 2 chaînes. Puis il demande « Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait? » Mais dans la foule, les uns crient une chose, les autres en crient une autre. Comme le commandant ne peut rien apprendre de sûr à cause du bruit, il donne l'ordre d'amener Paul dans la caserne. Quand Paul arrive près de l'escalier, les soldats doivent le porter parce que la foule est très violente. En effet, tout le peuple suit en criant « À mort !» Au moment où on va faire entrer Paul dans la caserne, il dit au commandant « Est-ce que je peux dire un mot ?» Le commandant répond, « Tu sais le grec ? Tu n'es pas l'Égyptien qui, ces temps-ci, a fait un complot et qui a amené au désert 4000 terroristes ?» Paul dit, « Moi, je suis juif, de la ville de Tarse, en Cilicie. Je suis citoyen d'une ville célèbre. S'il te plaît, permets-moi de parler au peuple. » Le commandant le permet. Paul, debout sur les marches, fait signe de la main au peuple. Alors, il y a un grand silence, et Paul leur dit dans la langue des Juifs, « Frères et pères, écoutez ce que je vais dire maintenant pour me défendre. Quand ils entendent Paul parler dans leur langue, ils sont encore plus calmes.
Merci. Paul revient à Jérusalem puis il va défendre la cause de l'Évangile. La cause de l'Évangile, c'est une cause unique qui est confiée seulement aux chrétiens. Elle est unique parce que ce que Jésus-Christ a accompli est unique. Alors, si vous n'êtes pas familier avec l'Évangile, bien, c'est simplement ce que Jésus a accompli en venant mourir sur cette croix. Les Saintes Écritures nous disent, la Bible nous dit que Jésus est venu donner sa vie en sacrifice afin que nos péchés, nos fautes qui ont pu offenser Dieu, qui ont offensé Dieu, puissent être pardonnés et qu'on puisse se réconcilier avec Dieu. Cette cause-là est unique parce que ce que Jésus a accompli, c'est unique. Aucune philosophie aussi extraordinaire soit-elle dans le monde, aucune religion aussi grande et impressionnante puisse-t-elle être, ne va offrir et n'a fait ce que Jésus-Christ a fait, c'est-à-dire offrir sa vie en sacrifice après avoir vécu une vie exceptionnelle, offrir sa vie en sacrifice pour les péchés des hommes afin qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Et dans ce sens-là, cette cause-là est unique. Et ce que je veux qu'on voit ce matin à travers Paul, c'est que la cause de l'Évangile nous appelle, nous comme chrétiens, à nous dépasser nous-mêmes. De la même manière qu'on a vu toutes sortes de causes où des gens m'ont dit, regarde, cette personne-là, par son dévouement, m'inspire, moi. Bien, la cause de l'Évangile nous appelle, nous, comme chrétiens, à nous dépasser nous-mêmes afin que nous puissions en inspirer d'autres à venir à connaître Jésus-Christ. Et Paul est un exemple dans ce sens-là. Un exemple absolument incroyable. Comme je le disais, Paul revient à Jérusalem. Il revient de longs voyages. Et donc, il faut comprendre un petit peu les circonstances pour saisir le dévouement de Paul à sa cause dans ce qu'on vient de voir comme passage, d'accord? Dans l'histoire qu'on vient juste de voir là. Paul arrive de 3 voyages missionnaires. Dans ces voyages-là, il a été battu, il a été pratiquement mis à mort à plusieurs reprises. Il a vu des choses incroyables se produire, des centaines, des milliers de personnes en venir à la connaissance personnelle de Jésus-Christ, placer leur foi en Jésus, devenir chrétien. Il a vu des miracles être opérés, il a vu même des résurrections, il a vu des affaires qu'aucun d'entre nous ne verront de notre vivant, d'accord? Et il revient à la maison et à quelque part, il y a une espèce de sentiment de « Écoutez la gang, je m'en viens vous raconter tout ce que Dieu a fait, on en a pour des semaines, je vais vous conter ça, ça va être tellement impressionnant et on va rendre la gloire à Dieu, mais vous allez voir, c'est vraiment hot ce qui est en train de se passer là. » Et dès qu'il met le pied à Jérusalem, en quelques heures, on le sent bien dans le récit, très rapidement, Paul va être emporté dans un tourbillon. Il va être emporté dans un tourbillon où, encore une fois, il doit se dévouer pour la cause de l'Évangile. Et il va le faire avec brio. On voit très bien que la cause passe avant lui, d'accord? Il va être emporté dans un tourbillon, il va être encore une fois battu, il va être jeté en prison, il va rester en prison plus de 2 ans, il va être conduit à Rome. On va voir ça dans les prochains chapitres. Mais ce qui m'impressionne et ce qui m'inspire ici, c'est l'attitude de Paul pour défendre la cause de l'Évangile plutôt que de se préoccuper de lui-même, alors qu'il y aurait eu des bonnes raisons pour célébrer. 3 choses que je voudrais souligner, que j'aimerais ça qu'on puisse s'approprier chacun d'entre nous là où nous sommes, dans notre milieu à nous. Maintenant, je suis conscient, puis j'en jasais avec des gars au bureau cette semaine, je disais, les gars me disaient, oui, mais c'est Paul, tu sais, puis Paul est impressionnant, puis Paul, c'est hors norme, c'est un autre vécu, et c'est difficile pour nous, des fois, de nous identifier, justement, à cause de tout ce que tu as dit là. Ce gars-là a vécu une vie exceptionnelle, donc c'est un gars exceptionnel, avec un potentiel exceptionnel, puis dans un sens, vous avez raison, si c'est comme ça que vous le prenez, dans un sens, vous avez raison. Mais ce que je vous dirais, c'est chacun son appel. Chacun son appel. C'est tout. Pas tout le monde qui est appelé à quitter le Québec pour aller implanter des églises au Chili comme les Bascounan. Pas tout le monde qui est appelé à aller implanter des églises à Rivière-du-Loup. De la même manière que dans ces grandes causes-là qu'on a vues ensemble tout à l'heure, bien, ça prend, c'est vrai, une personne qui est en avant, qui est le porte-étendard, puis ces gens-là ont souvent des destinées exceptionnelles. Mais derrière eux, combien est-ce qu'il y a de centaines et de milliers de personnes qui sont là en train de porter la cause aussi, à la mesure de leur appel? Alors, si Paul, son territoire, c'était l'Empire romain, bien, le mien, c'est ma maison, mes amis, mes voisins, la ville ici, l'église. Ça, c'est mon champ à moi. C'est la mesure de mon appel à moi. Et vous savez ce qui est déterminant dans le cas de Paul? Qu'est-ce qu'il fait qu'il porte cette cause-là avec tellement de cœur, tellement de dévouement? C'est simplement qu'il a été touché par la cause. Paul a été touché premièrement par l'Évangile pour pouvoir la porter à son tour. Paul a été rencontré par Jésus-Christ, il a été bouleversé par ce que Jésus a fait pour lui, et c'est parce qu'il a été touché que maintenant il porte cette cause-là. Dans une de ses lettres, 2 Corinthiens, on lit ceci, je vais lire brièvement. Dans 2 Corinthiens 5, 14 et 15, voici ce que Paul écrit. Il écrit « Car l'amour de Christ, Jésus-Christ, nous presse, nous pousse. » Voyez-vous, il est porté par cette cause-là. « Parce que nous estimons que si un seul, Jésus, est mort pour tous, pour le salut des hommes, de tous les hommes, tous ceux qui vont croire, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour la cause, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Et moi aussi, j'ai été touché par la cause de l'Évangile. J'ai été touché par l'Évangile. Et si c'est ton cas, bien toi aussi, tu es appelé à porter cette cause-là. Paul dit ailleurs, « J'ai été saisi par l'amour de Christ. » Bien, si j'ai été saisi par l'amour de Christ, l'amour de Jésus-Christ me presse à porter la cause de l'Évangile. Trois leçons que je voudrais qu'on apprenne de lui. Et je pense que ça va devenir plus concret pour chacun d'entre nous dans nos vies. Premièrement, la cause est plus importante que mes réalisations. La cause est plus importante que mes réalisations. Comme je l'ai mentionné, Paul arrive à Jérusalem, puis écoutez, dans notre langage, moi je pense qu'il méritait comme un stand-up ovation, une petite retraite, 11 semaines, tu sais. Envoyez-le donc, Paul, puis tu sais, n'importe quoi, non, mais c'est vrai, tu sais. Il méritait bien plus que ça, Paul. Puis il arrive là et puis il commence à leur raconter tout ça. Et le sentiment qu'on a dans le texte, c'est que très, très vite, il raconte ça. Puis on dirait que les gars disent, « Alléluia, Paul, c'est super, mais on fêtera ça au ciel, mon homme. On a une situation à gérer ici parce que tu es arrivé. Puis quand tu arrives, il y a du trouble qui arrive. » Et c'est ça le feeling dans le passage. Et la leçon que moi, je veux retirer de ça, c'est que je ne vais pas toujours être reconnu pour tout ce que je donne pour la cause. Et d'une manière très terre à terre, si je le transpose dans notre quotidien, il y a 1 million d'occasions où, vous savez, vous donnez le meilleur de vous-même, puis dans notre langage chrétien, on dit, ben j'ai tout fait pour être un bon chrétien. Tu sais, je me suis donné. Ça peut être ma journée au travail où j'étais là, puis j'ai essayé d'avoir un bon témoignage. Puis il y a quelqu'un qui me tombe toujours ses nerfs, puis j'ai été sacoche, puis j'étais à mon affaire, tu sais. Puis je rentre à la maison, puis mon mari me tombe d'en face, ma femme me tombe d'en face, puis il y a encore des besoins, puis encore les enfants. Puis ce que j'aurais le goût de dire, c'est, regardez, je l'ai fait, là, j'étais là. Je peux pas comme avoir un peu de merci, un peu de « wow, on va te donner un break. Regarde, assis-toi dans le salon, va relaxer, je t'apporte ton souper. » Mais non, il y a encore des besoins pour la cause parce qu'il y a une chicane entre mes enfants, puis il faut que je prenne l'Évangile, puis que j'ai placé ça dans ce contexte-là pour aider mes enfants à se réconcilier avec l'Évangile. Je suis encore là pour la cause. Ça peut être à travers un ministère où je suis en train de servir, puis je me suis donné, je me suis dévoué, puis j'arrive à un moment où je me dis, ben, tu sais, une petite tape dans le dos, ça serait le fun. Mais il y a une situation qui survient, il y a un besoin qui survient, il y a quelqu'un d'autre qui souffre encore. Puis là, l'attention est portée là. Puis à quelque part à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui dit, ouais, mais je n'en ai pas fait assez encore. La cause est toujours plus importante que mes réalisations pour la cause. Et lorsqu'on suit des gens dans les médias, tout ça, qui commencent à défendre des causes à un moment donné, à un certain moment donné, tu perçois chez certains d'entre eux que c'est un outil promotionnel, cette affaire-là. C'est là pour faire la promotion d'eux-mêmes, pour montrer qu'ils sont humains et tout ça. Et puis, à un moment donné, tu les vois disparaître parce que, dans le fond, ils n'étaient pas là pour la cause. Ils étaient là pour se réaliser, s'accomplir à travers la cause. Ça servait à une promotion d'eux-mêmes. Mais la cause va toujours être plus importante que mes propres réalisations. Et c'est ça que je vois ici avec Paul. Parce que dès le moment où on dit à Paul, « Paul, attends un peu mon homme, c'est génial, super, que Dieu te bénisse, on fêtera ça au ciel, on prendra une bière au ciel ensemble là-dessus, on va faire un gros party, on te consacre 200 ans là-dessus, OK? Mais pour l'instant, on a de l'action, mon gars. » Dès que ça se produit, qu'est-ce que Paul fait? Vire de bord, OK, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est quoi la job que j'ai à faire, les gars? Dites-moi, je veux servir la cause, je suis là pour la cause. Toujours là pour la cause. La cause ne sert pas à ma promotion, je sers la cause. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour l'encouragement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour s'encourager, se supporter, se dire merci, c'est super important de le faire. Mais il y a des moments où parce que je décide justement de servir la cause de l'Évangile, Plutôt que de dire « Hey, tournez-vous vers moi, là, j'ai besoin de merci, s'il vous plaît. » Ça va faire la différence à ce moment-là et c'est là que je vais devenir inspirant. C'est à ce moment-là où il va y avoir ce dépassement de soi, que les gens vont être attentifs puis vont dire « Attends un peu, l'Évangile a changé ta vie, mon homme. » Parce que tu devrais réclamer des applaudissements ici puis tu es encore là en train de te dévouer. Et les gens qui nous inspirent, ce sont des gens qui se dépassent à travers cette cause-là. Ils sont inspirants, comme j'ai dit, parfois à cause de la cause, mais souvent parce qu'eux-mêmes se dépassent pour cette cause-là. Alors peut-être qu'actuellement, il y a un endroit où dans ta vie, il y a cet appel-là à dire, c'est pas moi, la reconnaissance n'est pas là, mais je peux encore aller servir. Je sers la cause. La cause ne sert pas à ce que je m'accomplisse moi-même. Deuxième élément que je veux retenir de Paul ici, je le formule dans un langage très contemporain, c'est un petit peu tricky à voir dans le texte, mais je pense que c'est même la leçon la plus importante dans ce passage-là. C'est à moi de m'adapter pour faire connaître la cause. C'est à moi de m'adapter pour faire connaître la cause. Je n'ai pas à m'attendre à ce que le monde me court après pour entendre l'Évangile. Sure. T'es mieux de te dépasser beaucoup toi-même pour qu'ils disent « Oh, wow, t'es hot. » Je parlais avec Esther dernièrement, t'impliquais avec des gens, tout ça, puis dans un langage commun, c'est tellement des bonnes personnes, c'est des gens gentils, c'est des gens super, tout ça. Puis je disais, Esther, on jasait, on échangeait ensemble, puis je disais, tu réalises-tu à quel point il va falloir vraiment que tu te dépasses parce que c'est tout du bon monde, ces gens-là. C'est tout du bon monde. Fait que si tu es juste une bonne personne gentille, puis dans le meilleur des cas, tu vas juste réussir à dire, ben vous voyez, les chrétiens, on n'est pas si méchants que ça. Ah oui, mais on vit dans une société de tolérance. Fait que welcome in, on est toute une gang de pas méchants. Super. T'as ton affaire, j'ai la mienne. Je n'ai pas à m'attendre que les gens courent après moi pour venir entendre l'Évangile. C'est à moi d'aller vers eux, quitte à m'adapter pour les rejoindre avec le message de l'Évangile. C'est ma cause, c'est à moi de bouger pour aller vers eux. Et c'est à moi de m'adapter pour pouvoir aller les rejoindre. Je n'attends pas qu'on s'intéresse à ma cause, je m'intéresse aux gens pour pouvoir leur parler de la cause de l'Évangile. Et je suis prêt à passer par-dessus un nombre innombrable de barrières pour pouvoir aller les rejoindre là où ils sont. Paul a toujours eu dans son ministère un principe qui est appliqué partout, d'accord? Et son principe voulait qu'il ne soit pas centré sur lui-même en se disant « Wow, l'Évangile est tellement extraordinaire, j'ai juste à le dire, tout le monde va courir, tout le monde va être là. Il faut que j'aille les rejoindre là où ils sont. Il faut que je me rende à eux. » Dans son langage, les chrétiens, vous allez reconnaître cette idée-là, il se faisait tout à tous, d'accord? Donc, il avait ce principe-là qu'il devait aller rejoindre les gens là où ils sont pour pouvoir aller leur partager l'Évangile. Dans une de ses lettres, une lettre qu'il a écrite à l'église de Corinthe, il partage ce principe-là, et c'est ça qu'on voit appliquer ici dans Actes, mais laissez-moi vous lire simplement quelques versets dans 1 Corinthiens 9, versets 19 à 21. Paul résume son principe comme ceci. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Paul, il dit, moi, je ne suis pas tenu par les coutumes de celui-ci, les coutumes de celui-là. Je n'ai pas besoin d'être comme ci ou d'être comme ça. Je suis libre avec l'Évangile. Mais j'ai à cœur ces gens-là et donc je vais me faire le serviteur de tous. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Avec les non-Juifs, j'ai été comme un non-Juif. Alors, avec les Juifs, j'ai été comme Juif pour gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois moi-même pas sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Puis il résume au verset 22 en disant, « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Pour le mettre dans le contexte de Actes 21, quand Paul arrive à Jérusalem, pendant ses voyages missionnaires, Paul a essentiellement cherché à atteindre des non-juifs, d'accord? Quand il arrivait dans une ville, il y avait des juifs qui étaient là, il allait leur annoncer l'évangile de Jésus-Christ, mais très rapidement, il ouvrait le message aussi pour les non-juifs. Souvent, il y avait quelques juifs qui acceptaient de croire en Jésus, tout ça, mais il y avait une réaction parmi ceux qui rejetaient le message de l'évangile, et Paul se tournait vers les non-juifs à ce moment-là. Ça a fait en sorte que son ministère, ses voyages missionnaires, ont essentiellement été envers les non-juifs. Avec les non-juifs, il a dit, bien voici, vous devez croire dans le message de l'Évangile, mais vous n'avez pas besoin de devenir juif pour devenir chrétien. Vous êtes appelé à devenir chrétien. Et donc, vous n'êtes pas appelé à observer toute la loi de l'Ancien Testament, plusieurs avec des éléments qui sont symboliques, même des coutumes qui s'étaient ajoutées à cela. Oui, l'Ancien Testament est super important parce qu'on découvre à travers l'Ancien Testament tout l'Évangile. C'est sur l'Ancien Testament que repose ce message-là. Mais on y va comme chrétien pour apprendre sur l'Évangile. J'ai pas besoin de me convertir au judaïsme pour devenir chrétien. Alors, c'est ce que Paul faisait. Il avait vérifié avec les apôtres. C'est cool, les gars. Oui, c'est super. C'est comme ça que ça marche. Mais quand il revient à Jérusalem, contrée juive, à ce moment-là, des milliers de Juifs qui sont devenus chrétiens, eux sont demeurés attachés aux coutumes juives. Paul lui-même est demeuré attaché aux coutumes juives. Combien de fois dans le livre des Actes, Paul retourne à Jérusalem à plusieurs reprises, offrir des offrandes, tout ça, parce qu'il y avait une richesse dans ça. Comprenez que si le temple, dans l'Ancien Testament, annonçait à travers tous les sacrifices, les rituels, sacrifices d'animaux, tout ça, annonçait un sacrifice ultime qui est celui de Jésus-Christ, imaginez après la venue de Jésus mettre le pied dans le temple pour aller célébrer l'Évangile, avec toute la force historique, symbolique qui est là, qui est absolument extraordinaire. Alors oui, lorsque Jésus est venu, il a accompli plein de choses de l'Ancien Testament, mais Paul demeurait attaché à plusieurs de ses coutumes. Il les faisait non pas comme un devoir pour essayer de gagner son ciel, mais à cause que ça faisait partie de son adoration envers Dieu. Mais voici, la rumeur s'est répandue un peu partout et à Jérusalem spécialement, que Paul enseignait partout aux Juifs qu'ils devaient absolument abandonner toutes leurs coutumes juives pour devenir chrétiens. Paul n'a jamais enseigné ça, il a simplement dit, on est libre de ça. Et les non-Juifs n'ont pas besoin de se convertir au judaïsme pour devenir chrétiens. Le judaïsme annonçait Christ, le christianisme. Mais lorsqu'il arrive à Jérusalem, il y a plein de chrétiens d'origine juive qui ont entendu ces faussetés-là sur Paul. Et au moment où il est en train de raconter toutes les belles choses qui s'est passées, les gars qui sont là, qui sont responsables, disent « Mon homme, on a une situation à gérer ici parce qu'il y a plein de monde qui a entendu toutes sortes d'affaires fausses sur toi. Ça va partir dans toutes les directions. Ça va sortir de l'Église. Les Juifs qui n'ont pas accepté le christianisme vont s'en prendre à toi après. On a une situation à gérer ici. » Et donc, ce que Paul a fait toujours à travers son ministère, c'est-à-dire se faire tout à tous, s'adapter aux cultures où il allait, il doit encore le faire dans l'Église lorsqu'il revient. Il va encore faire un sacrifice personnel pour s'assurer que son message, le message de l'Évangile, est bien compris, qu'il n'est pas mal compris. Il va faire un sacrifice d'argent parce qu'il va payer pour ces hommes-là qui vont faire ce vœu. Il va faire un sacrifice tout simplement aussi en disant, écoutez, je l'ai dit combien de fois le message, combien de fois j'ai été clair, mais c'est pas compris. Encore une fois, il va se plier à ça. Et au départ, lorsqu'on lit ça, je suis certain qu'il y a quelques esprits cyniques dans la salle ici ce matin qui se sont dit, Paul est en train de faire de la gestion d'image ici. C'est ça qu'il est en train de faire en réalité. Il est en train de gérer une image. C'est pas ça. Paul est en train de dire, si je dois faire 1 million de courbettes pour vous et 1 million de sacrifices pour que le message de l'Évangile soit clair, je vais toutes les faire. Je vais toutes les faire. Je vais le faire pour les gens à l'extérieur de l'Église, je vais le faire pour les gens dans l'Église. Je vais le faire pour les chrétiens d'origine juive qui pensent que j'enseigne quelque chose d'autre. Voyez-vous, Paul ne se disait jamais, moi j'annonce puis les gens viendront à moi puis ça finit là. Ma cause est tellement extraordinaire que les gens vont me courir après. Paul prenait toujours pour acquis qu'il devait, lui, aller rejoindre les gens avec la cause de l'Évangile. Même dans l'Église, il était prêt à franchir ces barrières-là. Dans ta maison, dans ton foyer, il y a des relations. Il y a des relations qui sont difficiles parfois. Il y a des gens qui ont des préférences, qui veulent que les choses se fassent comme ci, comme ça. Ça génère des tensions. Ça génère des barrières entre vous. Et ces barrières-là, parce que tu peux décider de les franchir avec amour au nom de l'Évangile, te donnent l'opportunité encore une fois d'annoncer l'Évangile, même dans ton foyer, même dans ta relation de couple. Vous êtes deux chrétiens, mariés ensemble, puis il y a des tensions. Parce qu'on a notre culture propre, chacun d'entre nous, puis les choses devraient se faire comme ci, non, comme ça, puis tout ça, puis ça bâtit des murs entre nous. Si je décide comme Paul ici, de dire, non, mais encore un peu plus, parce que je vais aller te rejoindre, puis je t'aime, puis c'est pas un problème. Si pour toi, il faut que ça prenne cette forme-là, ça va prendre cette forme-là, mais tu vas voir l'amour de Christ. Tu vas voir l'Évangile en action dans mon couple. J'ai l'opportunité de le faire même là, de le faire avec vos adolescents. Vos adolescents, c'est comme, tu sais, plus ils grandissent, c'est comme les Juifs puis les païens, tu sais. Je dirais pas lesquels sont comme qui, d'accord? Mais je veux dire, c'est deux cultures. Puis plus ils avancent, plus ce sont deux cultures parce qu'ils écoutent une musique que vous comprenez peut-être pas, puis j'espère que vous pouvez la comprendre, puis allez-y. Mais justement, c'est ça que Paul fait. Paul ne permet pas que ces barrières-là soient un empêchement à les connecter ensemble. Parce que lorsque je permets que ces barrières-là soient un empêchement, mon message ne passe pas. Voyez-vous, le message de Paul a été déformé ici et Paul ne doit pas simplement dire « Regardez ce qu'on va faire la gang. Je convoque un colloque, je sors le grand tableau, je vous explique c'est quoi la vie. I'm Paul, tu sais. J'ai comme 26 doctorats sur l'Évangile, j'ai eu des visions. Je vais vous expliquer c'est quoi l'Évangile, on va faire tout ça. » Non, les gens ont besoin de voir. Les gens ont besoin de voir dans la vie de Paul, les gens ont besoin de voir dans ta vie à toi, concrètement, que tu es prêt à franchir ces barrières-là pour aller vers eux. Ça peut être ton voisin totalement antipathique ou simplement qui parle une autre langue puis qui est juste comme bizarre ou qui travaille sur un autre chiffre puis vous ne vous voyez jamais puis à quelque part, ça fait ton affaire parce que quand tu rentres, il n'est pas là. Puis tu sais, quand tu pars, il n'est pas là. Puis waouh, c'est vraiment un bon voisin. C'est les meilleurs voisins, tu sais. Tu les vois jamais. Ils font jamais de trouble. Oui, mais peut-être justement qu'il faudrait t'ajuster un petit peu ton horaire pour le voir, ton voisin, parce que tu as une cause. Puis dans ton milieu où tu es probablement le seul missionnaire qui va pouvoir porter cette cause-là. Si c'était le chihuahua tibétain, il embarquerait avec toi tout de suite demain matin. Va lui présenter ton petit chien, il va te donner pour la cause. Si c'est l'Évangile, ça va être une autre histoire. Tu vas avoir des barrières à franchir pour aller le rejoindre avec l'Évangile. Paul était toujours prêt. Il ne prenait pas pour acquis que sa cause était tellement exceptionnelle, phénoménale, que les gens allaient venir vers lui. Lui allait vers eux. Il ne permettait pas que ces barrières-là soient un empêchement à aller vers eux. Ça peut être un collègue de travail. Vous dites, ah, tu sais, c'est parce que nos personnalités ne marchent pas. Tu sais, conflit de personnalité. C'est une super occasion. C'est une super occasion d'aller vers cette personne-là. Et la dernière leçon de Paul, c'est quand je l'ai lu, j'ai dit, il est incroyable ce gars-là, puis ça m'inspire honnêtement. Alors Paul se plie, j'ai même lu des commentateurs qui disaient, mais on pense que peut-être que les leaders de l'Église ont fait une erreur, parce que vous voyez, finalement, ça ne marche pas. Il fait, là, des Juifs disent, ah, on l'a vu marcher en ville avec un non-Juif, on est sûr qu'il a rentré dans le temple. Donc, il a rentré des non-Juifs dans le temple, puis il y a une section du temple, tu n'avais pas le droit, les païens n'avaient pas le droit d'aller là, les non-Juifs, tu sais. Fait qu'ils ont rentré là, puis finalement, tout ça dérape totalement. Il a fait ça pour une bonne cause, il se retrouve entouré, on commence à crier des bêtises, on commence à le battre encore une fois, sa vie est en péril encore une fois, ça devient tellement gros que l'officier romain entend parler qu'il y a une espèce d'émeute dans la ville, s'envole avec des soldats, même pas capable d'arrêter la foule. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils saisissent Paul, ils tirent à l'écart, ils essaient de parler, mais ils n'arrivent pas à s'entendre, d'accord? Fait que la solution était comme, ça a-tu marché? Ça ne marche pas encore. Puis Paul voulait faire du bien. Finalement, il finit battu. Là, on l'enchaîne. Et puis, il est en train de monter les gradins pour rentrer à l'intérieur de la citadelle parce que l'officier romain veut l'amener à l'écart pour dire, regarde, on va s'entendre en dedans. Là, on peut pas se parler ici. Fait que, il l'amène là, puis il est en train de monter les gradins. Puis, la foule crie. Ils veulent le tuer. C'est ça qu'ils veulent. Puis, à un moment donné, Paul lève la tête. Puis, il dit, man, j'ai un auditoire pour l'Évangile. Hey, je peux encore prêcher l'Évangile. J'ai une foule devant moi pour annoncer l'Évangile. Là-bas, en bas, ils ne m'auraient pas entendu, mais ici, ils vont m'entendre. Fait qu'il arrête l'officier romain et il dit, « Attends un petit peu, je peux-tu juste dire un mot? » Paul était brillant, savait dans quelle langue parler, tout le kit pour pouvoir attirer l'attention. C'est vrai qu'il y a un appel particulier, c'est vrai. Et il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui allons nous faire battre, enchaîner, monter, commencer à parler en grec, en hébreu, tout le kit, puis avoir une foule devant nous. Mais pour Paul, toutes les opportunités, toutes les occasions, les moins probables devenaient une opportunité de défendre la cause de l'Évangile, de porter la cause de l'Évangile, d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. La semaine prochaine, on va regarder ensemble son discours qu'il a fait à ce moment-là et on va voir, il annonce l'Évangile avec un feu incroyable. Mais ce que je retiens de ça, c'est que pour Paul, toutes les occasions devenaient une opportunité, aussi improbable soit-elle, pour pouvoir annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Toutes les occasions deviennent bonnes, qu'elles soient anodines ou qu'elles soient improbables à cause de l'amour de Dieu envers Paul. Paul est porté par cette cause-là, il veut annoncer l'Évangile. Et non seulement ça, mais les auditeurs les moins probables aussi peuvent devenir les gens à qui tu vas annoncer l'Évangile. Alors, il y a des situations qui sont improbables, qui sont difficiles. Tu es à la maison, tu es avec les enfants. Il y a un conflit. Il y a quelque chose qui s'est passé avec un petit voisin. Puis ton enfant entre à la maison, il s'est chicané, puis le monsieur en face, il fait juste prendre la défense de son fils, puis c'est un petit gars, puis ton bonhomme, c'est un petit démon, puis blablabla, blablabla, blablabla. Paul aurait été là, puis qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait dit, wow, j'ai le père à qui je peux annoncer l'Évangile, j'ai mon enfant à qui je peux annoncer l'Évangile, puis peut-être indirectement à son enfant à travers mon témoignage. Parce que quand mon enfant rentre à la maison, puis il dit, c'est quoi cette affaire-là? C'est injuste! Mais je vais l'écouter, je vais aller le rencontrer, je vais aller pleurer avec lui, mais à un certain moment donné, je vais dire, parlons d'injustice, mon garçon. Parlons de la vraie injustice qui fait qu'on va être capable de l'aimer, ton petit ami puis son papa juste en face. Et je vais pouvoir annoncer l'Évangile à ce moment-là. Et peut-être que c'est un collègue de travail qui vous tombe sur le dos, qui pose des gestes qui sont injustes au travail, ou un patron qui est injuste, vous n'êtes pas traité justement. Mais ces moments-là où il y a des injustices peuvent vous donner des auditeurs totalement surprenants à qui vous allez pouvoir annoncer l'Évangile. Peut-être que c'est quelqu'un qui arrive dans votre entourage et vous dites, celui-là, c'est impossible. Je ne pourrais pas lui annoncer l'Évangile. Restez avec nous jusqu'à la semaine prochaine. On va voir un intégriste se convertir, d'accord? Alors peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage, vous dites, oui, mais il vient d'une autre culture, il n'y a rien à faire, je ne pourrais pas le rejoindre. Celui-là même peut vous donner une occasion d'annoncer l'Évangile. Il y a plein de gens qui défendent des causes, et moi je crois que les chrétiens devraient s'impliquer dans des causes. On devrait être là. Quand les gens autour de nous font du bien, on devrait être là pour dire « c'est vraiment génial ce que tu fais ». Parce que tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu, puis les êtres humains ne veulent pas juste faire du mal, c'est pas vrai, ils veulent faire du bien, puis on devrait s'impliquer dans des causes, on devrait être là. Mais il y a une cause qui est réservée à nous seuls, et c'est la cause de l'Évangile. Elle est exceptionnelle, elle est unique. Les gens autour de vous ne trouveront pas ailleurs ce que Jésus-Christ leur offre. C'est impossible, parce que ce qu'il a fait est absolument unique. Maintenant, cette cause-là est unique, et elle nous appelle, nous comme chrétiens, à suivre l'exemple de Paul et à nous dépasser nous-mêmes. À faire ce mille supplémentaire où je vais faire passer la cause avant mes réalisations, avant moi-même. La cause ne sert pas à ma promotion, c'est moi qui sers la cause directement. Et je vais prendre conscience que les gens autour de moi n'ont pas besoin simplement de voir que je suis un bon voisin qui garde son terrain propre, qui n'écœure pas personne, qui est gentil, qui dit bonjour, qui une fois par année pèlte l'entrée du voisin pour pouvoir le dépanner, ou mes enfants qui me voient le matin ouvrir ma Bible, puis en train de lire ma Bible, puis ils disent « Ah, dans ma maison, papa, maman ne se crient pas après ». Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Parce que les gens sont inspirés lorsqu'ils voient quelqu'un se dépasser pour la cause qu'il porte. Et si tu es chrétien, tu comprends cela. Parce que celui qui est venu établir cette cause-là s'est dépassé totalement. Il est venu mourir sur une croix pour tes péchés, les miens. Il est sorti de sa zone de confort. Il a quitté son Père dans le ciel. Il est venu vivre comme un homme. Il l'a porté à bout de bras, cette cause-là, au bout de ses bras à lui, pendu à une croix, pour tes péchés, les miens. Et c'est ça qui nous a interpellés, plusieurs d'entre nous. C'est l'amour de Dieu manifesté à travers cet amour extrême. C'est l'extrémisme, le dépassement de Jésus sur la croix. Tu dis, mais il y a quelque chose là pour qu'un homme meure sur une croix comme ça, un homme si bon. Il croyait à cette cause-là. Et on a été interpellés à ce moment-là par l'amour de Dieu, par ce dépassement-là. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin d'être inspirés par ton dépassement, ton amour, où tu vas te dépasser toi-même, tu vas aller les rejoindre, tu vas franchir toutes ces barrières-là. Tu vas faire plus que ce que toutes les bonnes personnes autour d'elles font. Et tu vas aller saisir toutes les opportunités pour annoncer l'Évangile. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça cette semaine avec vos enfants, avec votre conjoint, où il y a des tensions puis il y a des barrières qui sont en train de se construire, puis vous dites non, ça ne marche pas, mais la manière que je défends la cause peut faire la différence ici, avec un collègue de travail où c'est tellement difficile. Est-ce que comme église ici, on est prêt à faire ça? J'ai visité 11 églises. Je ne suis pas allé visiter des églises qui sont en train de dormir au gaz, vous l'aurez compris. J'avais pas beaucoup à apprendre de ça. J'ai juste à ouvrir la vanne, puis on s'endort toute la gang, c'est beau. J'allais visiter des églises qui se dépassent elles-mêmes pour la cause de l'Évangile. Toutes sortes d'églises qui ont toutes sortes d'approches, je vais vous partager ça, qui ont toutes sortes d'approches qui marchent. C'est pas vraiment ça qui est l'élément clé, c'est le message de l'Évangile et l'amour qui est appliqué lorsqu'on apporte ce message-là, qui est concret, qui devient visible, comme Paul le fait ici pour les chrétiens juifs à Jérusalem, où il va faire cet acte-là d'amour encore une fois. Est-ce que comme Église, on est prêt à faire ça? Est-ce qu'on est prêt à dire, « Seigneur Jésus, tu nous as tellement, tellement aimés. Ta cause est tellement exceptionnelle. Et je réalise que moi seul, probablement, dans mon milieu, peux porter cette cause-là. On va le faire ici pour Longueuil. On va porter la cause de l'Évangile. » Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? À vous donner avec nous? On va aller ensemble dans la prière et j'aimerais ça qu'on puisse se recueillir, d'accord? Chacun pour soi. Et peut-être... Si vous êtes à l'aise, je vous invite juste à fermer les yeux. Peut-être que tu n'es même pas chrétien. Et c'est la première fois que tu entends parler de l'Évangile ou tu assistes à l'Église depuis quelques semaines. Tu as entendu Alexandre parler avec tellement de beauté de ce que Jésus-Christ est venu accomplir, du message de l'Évangile. Et peut-être que Dieu t'interpelle par cet amour que Dieu a manifesté envers toi. Je t'invite ce matin à répondre dans ton cœur. Et David et l'équipe ici vont nous conduire dans des chants de louange. J'aimerais que ces chants puissent être une réponse de notre cœur. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, ta cause n'est pas aussi sympathique que bien des causes. Seigneur, ta cause, c'est la cause d'un gars qui est mort il y a 2000 ans et ressuscité, mais qui peut sembler tellement loin. Et pourtant, Seigneur, tu es venu nous interpeller, nous. Tu es venu m'interpeller, moi. Tu es venu saisir mon cœur. Tu es venu saisir le cœur de Paul. Tu as bouleversé sa vie entièrement avec cette cause extraordinaire, Seigneur. Seigneur Jésus, il y a des gens autour de nous, autour de moi, dans ma famille, mon épouse, mes enfants, mes voisins, les gens que je croise ici à l'église, les gens que je croise sur la rue, les gens que je croise dans les ministères de bénévolat où on est impliqué. Ces gens-là ont besoin de voir en moi, Seigneur, que cette cause-là est tellement grande qu'elle m'amène à me dépasser moi-même. Seigneur, je reconnais que trop souvent, je veux m'arrêter à faire un certain nombre de trucs et dire « c'est assez, j'ai fait ça ». Mais je veux reconnaître, Seigneur, ce matin que je manque souvent des moments magiques où simplement le renoncement à moi-même pourrait venir faire la différence dans la défense de la cause de l'Évangile. Je reconnais, Seigneur, qu'il y a des moments où j'ai le goût simplement de ramener les choses à moi et dire j'ai fait mon chiffre, Seigneur. Je les ai faites mes heures et maintenant je m'occupe de moi, Seigneur. J'ai assez donné, Seigneur. J'ai assez donné, j'ai déjà essayé de les rejoindre, de traverser les barrières, Seigneur. Tu vois, ça ne donne absolument rien. J'ai le goût de décrocher maintenant. J'ai le goût de m'arrêter, de me tourner vers moi. Père, certains d'entre nous sont découragés parce que justement, ils ont été là, ils ont été pleins de dévouement, mais ils se sentent seuls à porter leur cause dans leur milieu, dans leur famille. Conjoints non chrétiens, enfants qui ne répondent pas à l'Évangile depuis des années. Et la tentation de s'asseoir, de dire, ils ont entendu mon message 4000 fois, mais ils ne passent pas. Seigneur, je veux te demander de venir leur insuffler une force nouvelle, afin que par leur persévérance au dépassement de soi, à l'amour, Seigneur, et à annoncer Jésus-Christ, ils puissent venir inspirer d'autres à venir à la connaissance de Jésus-Christ. Seigneur, certains d'entre nous se sont endormis, se sont assis. Ils ont été emportés par l'air du temps, par le confort de cette société matérialiste. Et ils ont perdu la cause de vue. Père, pardonne, régénère, redonne une vie nouvelle, Seigneur, afin qu'on puisse prendre la croix et porter cette cause de la croix sur nos épaules et te suivre, Seigneur Jésus, avec un don de soi, un dévouement, une charité qui va confondre les autres, Seigneur. Je prie, Père, cette semaine, aujourd'hui, nous montrer à chacun d'entre nous, tous ceux ici qui ont ton Esprit Saint, montre-nous comment concrètement nous dépasser nous-mêmes pour inspirer des gens, attirer l'attention des gens, non pas sur moi, Seigneur, mais sur toi, Seigneur Jésus, parce que tu mérites cela, Seigneur. Tu mérites cela, Seigneur. Ta cause est exceptionnelle, Seigneur Jésus. Amen.